Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité des championnes. Alors, des femmes qui battent des records sportifs à l'image des handballeuses championnes d'Europe après avoir été championnes du monde. Ça n'étonne plus personne aujourd'hui. Et pourtant, pour avoir le droit de concourir et d'être reconnues, des femmes ont lutté pendant des décennies. Et ce sont ces pionnières que l'on rencontre avec nos invités championnes d'histoire. Bonjour Clémentine Porti-Kaltenbach.
Bonjour Sidonie, bonjour Thomas.
Ravie de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes historienne et journaliste. Et à votre côté, votre sœur.
Bonjour.
L'auteur,
bonjour.
Lorraine Kaltenbach, on est ravis de vous accueillir. Pourquoi est-ce que longtemps, le sport, ça a été une affaire d'homme ?
Bon, tout simplement parce que la femme est considérée comme une créature fragile, qui est une créature dominée. Et le sport virilise, masculinise. Bien souvent, vous le savez très bien, quand une femme a des résultats sportifs mirobolants, tout de suite, on se demande si c'est pas un homme, hein, oui. Comme les nageuses est-allemandes ou comme cette fameuse hockeyeuse québécoise, Albertine Lapensée. On s'est dit, elle est trop douée au hockey sur glace, ça doit être un homme. Et puis, c'est aussi l'idée, la femme sportive, c'est aussi une rebelle parce qu'elle est subversive dans la mesure où ce qu'elle veut, c'est sortir du foyer, partir sur les terrains, partir en voiture, partir faire de l'avion, voilà, donc elle quitte le foyer, donc dans l'ordre établi ça n'est pas bien de faire du sport.
Alors on va entrer dans les détails, raconter plusieurs destins, mais est-ce qu'il y a une rupture, une amorce du changement, peut-être la Première Guerre mondiale?
Peut-être un peu avant, vous avez 70-80, l'ère de l'hygiénisme, où on commence à se dire que peut-être quelques activités sportives, pas trop violentes, pourra permettre d'avoir des mères, des parturientes un peu robustes qui feront des gros bébés. Oui. Mais le vrai changement, c'est effectivement avec la Première Guerre mondiale. Quelques années avant, elles ont abandonné le corset et comme pendant 4 ans, elles vont conduire des locomotives, évidemment tout change dans leur vie, elles vont s'adonner plus généralement au sport.
Et pourtant déjà, on va le découvrir avec vous, dans l'Antiquité il y a eu une grande championne olympique. On vous présente Kaniska et son char. L'histoire l'a un peu oublié, mais pas la curiosité grâce à nos invités. A tout de suite sur RTL.
RTL. En 2012, 7% des diffusions sportives étaient consacrées au sport féminin. En 2014, c'est-à-dire 2 ans plus tard, 15% étaient consacrées au sport féminin.
La curiosité est un vilain défaut.
À l'origine, le sport a été créé par des hommes, pour des hommes. Ça servait à prouver leur virilité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais bon, à un moment donné, certaines femmes se sont dit « Et nous, on est du caca peut-être ?»
J'ose espérer qu'elle ne parlait pas comme ça.
Et non, nous ne sommes pas du caca. Les championnes sont dans la curiosité, ça c'est sûr. Des femmes, des pionnières qui ont su s'imposer dans un monde d'hommes. On découvre leur destin avec nos invités. Les sœurs Kaltenbach, je promets que je vais vous individualiser un moment.
Mais non, ça nous va très bien.
Mais vous êtes un super duo, Clémentine.
Vraiment, on était ensemble sur ce livre-là et c'est très plaisant d'en parler toutes les deux.
Magnifique. Les femmes se sont fait une place tardivement dans le monde du sport et pourtant ça commençait bien, on peut le dire, avec cette héroïne qui s'appelait Kaniska, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Qui est-elle ?
Ah ben, Kaniska, c'est la première championne olympique, la première femme championne et c'est la seule dont le nom soit passé à la postérité. Vous imaginez, il y a 1000 ans de Jeux olympiques dans la Grèce antique, une femme qui sort du lot, c'est Kaniska.
Parce que les femmes avaient le droit de concourir,
alors,
de participer aux JO.
Il y avait des jeux féminins qu'on appelait les jeux héréens, mais tout à fait secondaires. Et d'ailleurs, il n'y avait pratiquement que des spartiates, parce que les spartiates, elles étaient élevées à la dure, elles faisaient les mêmes exercices que les garçons. Et dans toute la Grèce, on les considérait comme des montre-cuisses. C'est-à-dire que des femmes aillent en petite jupette sur le terrain de sport, ça faisait un véritable scandale. Mais aux jeux olympiques essentiels, ceux d'Olympie et les jeux masculins, non seulement il n'y a pas de femmes, mais elles n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enceinte olympique sous peine de mort. C'est-à-dire que si vous êtes chopé dans l'enceinte, on vous balance du haut du Monty Python.
Qu'est-ce qu'elles ne doivent pas voir, ces femmes ?
Alors, notamment, elles ne doivent pas voir les athlètes qui concourent, messieurs, dames, nus. Donc vous imaginez des beaux éphèbes grecs huilés qui utilisent du disco-ball et du javelot, ça devait être très très sexy. Et les femmes mariées n'ont pas le droit.
Ça,
ah, tout à fait, c'est très appétissant. Alors, les femmes n'ont pas le droit de rentrer parce que les femmes mariées, parce qu'elles pourraient se livrer à des comparaisons anatomiques qui ne seraient pas bon pour la paix des ménages.
Kaniska, comment réussit-elle à devenir championne olympique dans ce contexte ?
Alors, elle réussit parce qu'en fait, elle, comme princesse et sœur du roi de Sparte, elle a un orige, elle a un équipage et des chevaux, et elle les fait concourir dans l'épreuve reine des Jeux olympiques, qui est la fameuse course de chars qui se déroule le dernier jour des Jeux. Et là, son attelage va gagner. Donc, gros problème pour les juges olympiques. Comment va-t-on remettre à cette dame sa couronne de laurier alors qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte olympique? Eh bien, on la lui donne tout simplement
à l'extérieur
de l'enceinte. Oui.
Alors, vous publiez toutes les deux ce très beau livre « Championnes, elles ont conquis l'or, l'argent et le bronze ». C'est chez Artaud Poche. On va faire un saut dans le temps, Lorraine Kaltenbach. On est au premier jeu moderne, on va dire 1896. Et notre héros national, Pierre de Coubertin, fondateur de ces jeux, qu'est-ce qu'il pense des femmes
Il pense qu'elles peuvent faire un peu d'exercice, mais se montrer en public, c'est quand même incorrect. Et évidemment, il ne veut pas de femmes pendant les Jeux Olympiques.
Et pourquoi on n'est pas capable de faire du sport pour Pierre de Coubertin?
Non, mais les tenues sont un peu incorrectes. Et puis on s'ébroue, on s'ébat, il faut faire des sports un peu élégants. Et puis le vrai champion est un homme.
Oui. Et puis heureusement, ça n'a pas empêché des femmes de briller et de se lancer des défis fous. Vous racontez le destin de cette femme incroyable, Marie Marvin. Pourquoi c'est une femme hors du commun au début de ce XXe siècle?
Parce que pour moi, c'est la plus grande championne sportive, toujours confondue depuis l'homme de Cro-Magnon.
Ah oui,
c'est une femme qui va avoir 17 records mondiaux. C'est la modeste fille d'un petit receveur des postes lorrain, hyperactive, qui dort 3 heures par nuit et qui se donne à toutes les disciplines, plus d'une trentaine.
Mais tous les sports?
La nage, la gymnastique, la boxe, la lutte, le tennis, la marche, le tir, l'alpinisme, tous les sports déserts. Elle va avoir ses brevets pour les avions à réaction à 80 ans. Elle fête son anniversaire en passant à 1200 km/h au-dessus de Nancy.
Mais elle a dingue. Son brevet de... Oui, elle pilote l'hélicoptère, elle conduit les locomotives aussi.
Les locomotives,
elle est incroyable. Incroyable.
Marie Marvin, j'avoue que je ne connaissais pas son nom. Donc, elle a été une star à son
époque.
Elle
a été une star et puis elle a beaucoup contribué à l'édification de sa propre statue, parce qu'elle a un peu travaillé dans la presse et elle aimait beaucoup parler d'elle-même.
Donc elle écrivait sa légende, pardon,
oui,
Denis.
Exactement.
D'accord. Et elle a inspiré, elle a ouvert la voie en quelque sorte à cette libération de la femme, à la présence des femmes dans le sport, finalement, dans le monde des champions.
Elle n'a pas ouvert la voie, mais elle est étonnante par l'addition des records, la diversité des pratiques. Mais les pionnières, par discipline, sont arrivées un peu avant.
Il y a Alice Milliard, qui était une rameuse nantaise et qui, en 1921, impose les premiers Jeux Olympiques internationaux féminins à Monte-Carlo. Ça, c'est vraiment
c'est de la Coubertin.
Songez qu'au JO de 1900, qui était en France, il y avait 22 femmes pour 997 hommes. Et les femmes, elles étaient... À quel sport se livraient-elles? Croquet, pêche, ballon et épreuve scolaire. Voilà les femmes aux Jeux Olympiques de 1900.
Allez, on a progressé.
D'autres championnes à venir dans la curiosité sur RTL. Camille Crespin-Dugast, par exemple, première femme pilote automobile. On admirait ses belles tenues. Et pourtant, elle en avait sous la pédale. Récit dans un instant sur RTL.
Sidonie Bonnec. À toutes celles qui ont un jour douté. Thomas Hugues. Je suis toutes les femmes et la voix de chacune. RTL. Pour chaque femme, le sport est une chance. La curiosité est un vilain défaut.
Une campagne pour faire la promotion du sport féminin, parce que même en 2019, il faut encore se battre. Heureusement, on a progressé, c'est ce qu'on apprend avec nos invités historiennes, auteurs Clémentine Portier-Kaltenbach et Lorraine Kaltenbach. Vous nous racontez l'histoire de ces pionnières, celles qui ont, ces championnes qui ont défié les préjugés et aussi l'autorité masculine. Évidemment, on embarque maintenant avec Camille Crespin-Dugast. On est à la fin du 19e siècle. Qui est-elle? Quelle est sa discipline de prédilection, Lorraine?
Alors, ce sont les courses automobiles.
D'accord.
En 93, le préfet Louis Lépine instaure le permis de conduire. Quatre ans plus tard, il y a une première femme, la duchesse d'Uzès, qui va être la première à avoir son permis, la première à être verbalisée pour excès de vitesse parce qu'elle fait du 15 à l'heure, alors qu'en agglomération, c'est limité à 12.
Ah oui.
Et puis Camille Dugast, riche, veuve, va s'adonner aux premières grandes courses automobiles.
Et cette course, alors, est-ce qu'elle s'illustre dans une course vraiment mythique? Peut-être qu'on a oublié aujourd'hui, d'ailleurs, le nom de cette course.
Alors, une des premières grandes à laquelle elle participe, c'est le Paris-Berlin de 1901.
Ouais.
Elle fait une très belle course, puisqu'elle arrive à peu près 30e sur 150 concurrents.
Ah oui.
Mais la presse ne s'intéresse absolument pas à ses performances sportives, mais à sa tenue, en décrivant sa jupe en drap de laine, sa jolie casquette blanche.
Camille Crespin-Dugast, elle arrive à s'illustrer... dans ce monde d'hommes parce que les femmes ont le droit de concourir, d'être pilote automobile, ou elles doivent jouer des coudes quand même?
Elles vont être rapidement interdites. Et Camille Crespin-Dugast, après le Paris-Berlin, va faire le Paris-Madrid. Et dans la première journée, c'est une hécatombe. Il y a 10 morts au tapis. L'Automobile Club de France et les autorités décident d'arrêter la course et d'interdire aux femmes de faire des compétitions. Donc elle sera interdite de courir.
Et ça va durer longtemps, cette interdiction de concourir?
Je pense
ça, de courir.
Jusqu'à l'après-guerre. Déjà, ils vont interdire les courses hors circuit. Et c'est l'origine du circuit du Mans. Et elle va être obligée de se reconvertir dans le motonautisme.
Mais ça veut dire qu'on saisit... On saisit le prétexte de cette série d'accidents. Elle n'est pas plus responsable de ces accidents
bien
qu'elle
d'autres pilotes. C'est ce qu'elle pilotes, dit. Elle s'en émeut dans la presse en disant « Mais écoutez, moi, je n'ai tué personne. » On lui dit « Mais chère madame, bien sûr, vous êtes très douée, mais fondamentalement, une femme au volant, qu'est-ce que ça va donner ?»
La mort au tournant.
Mais bien sûr, elle ne regardera plus la route. Elle va se perdre dans des rêveries.
Elle va se maquiller.
Elle va perdre ses pendules dans le levier de vitesse.
La robe se prend dans le levier de vitesse.
Oui. Le Figaro titre « La femme et l'automobile, aucun avenir ».
Ce qui est intéressant dans ces femmes dont vous racontez le destin, Clémentine et Lorraine, dans Championne, elles ont conquis l'or, l'argent et le bronze qui paraît chez Art aux Poches, c'est qu'elles viennent de plein de milieux. La Camille Crespin-Dugast, elle vient d'un milieu assez aisé. Et Marie Paradis alors, qui était-elle et quel exploit elle va réaliser pour nous les femmes?
Marie Paradis, elle est servante dans une auberge à Chamonix. Hein, ça se passe en 1808. Et alors, le premier homme, l'un des premiers hommes à avoir gravi le Mont Blanc, c'était en 1786, se prépare à une nouvelle équipée, puis en route, il est interpellé par deux dames, l'une qui est en train d'allaiter son bébé, donc elle n'est peut-être pas tellement en forme pour monter au Mont Blanc, et la fameuse Marie Paradis, qui a l'air d'une bonne petite montagnarde en pleine forme, et donc elle participe à l'équipée.
Elle est habillée comment ?
Alors en robe, robe avec même pas des petits gants en peau de lapin, et on monte avec des échelles et avec des chaussures. Je vous raconte même pas des espèces de
savates en cuir, quoi.
Pas de savates en cuir, mais enfin certainement pas quelque chose de bien chaud, et surtout encombrée par une robe, ça devait être quelque chose, ces ascensions. Et alors on la tire, on la pousse, et elle arrive là-haut, grelottante, violette, absolument exténuée. Elle est complètement estourbie. Elle a même pas l'occasion de réaliser ce qu'elle vient d'accomplir, qui est quand même extraordinaire. Donc c'est à la fois la première femme à avoir gravi le Mont Blanc, cette petite Marie Paradis, cette petite serveuse de Chamonix, mais en même temps, elle le fait tellement, comme aurait dit un grand cycliste à l'insu de son plein gré, que c'est pas tellement une conquistador de la haute montagne, c'est plutôt une autre. C'est
30
chérie.
Ans plus tard, voilà. Henriette d'Angeville, qui d'ailleurs va toiser la pauvre petite Marie Paradis en disant « Je suis la première à être montée au sommet en pleine conscience.
» Génial.
Effectivement, donc il y a même des bagarres entre championne d'autres destins à venir sur RTL. Tiens, par exemple, pour les Jeux Olympiques, écoutez bien, les nazis préfèrent remplacer une championne de saut en hauteur par un travesti. Restez avec nous, les curieux, on vous raconte ce destin incroyable dans un instant.
Amandine ! La dernière parade d'Amandine Lénon !
Thomas
qui vient mettre le couvercle sur ce match, sur ce titre de championne d'Europe !
Championne d'Europe !
Elles l'ont fait ! Elles étaient championnes du monde ! Elles sont championnes d'Europe cette année.
Sidonie Bonnec.
Dans une ambiance absolument indécente.
La curiosité est un vilain défaut.
L'équipe de France à Bercy est championne d'Europe face à la Russie.
C'était le 16 décembre dernier, les Françaises qui devenaient championnes d'Europe de handball face à la Russie des championnes.
Bon, j'étais avec plein d'amis, hommes et femmes, on était scotchés devant la télé, à pousser des hurlements.
Ah, c'est vous que j'ai entendu à travers la
moi.
Ville.
Moi, vous habitez trop loin par rapport à mon appartement.
On adore les championnes dans la curiosité, celles de l'histoire aussi, celles qui ont ouvert la voie pour les championnes d'aujourd'hui. Nous sommes avec l'historienne Clémentine Portier-Kaltenbach et l'auteur, sa sœur, Lorraine Kaltenbach. Et on va raconter maintenant ce destin incroyable. C'est celle d'une sportive allemande. Elle est spécialiste du saut en hauteur. Elle s'appelle Gretel Bergmann. Que va-t-il lui arriver en 1933 ?
Elle est exclue de son club de sport puisqu'elle est juive. Petite juive du Württemberg, il est hors de question d'utiliser des installations aériennes.
Donc, elle ne peut plus pratiquer son sport. Et en 1936, l'Allemagne va organiser les fameux JO d'été à Berlin. Ça veut dire qu'elle ne pourra absolument pas y participer.
Pas sûr, parce que la communauté internationale menace de boycotter ces Jeux. Et donc les Allemands font mine de la faire participer, de la présélectionner. Et puis on attend la dernière minute où la délégation américaine a pris son transatlantique et commence à arriver à Berlin. On sent bien que ça y est, la menace du boycott élevée. On envoie à cette jeune Gretel une lettre en disant « Écoutez, vos performances ne sont pas suffisantes, elles sont irrégulières, on ne veut plus de vous. » Alors qu'elle était, il y avait deux Allemandes qui avaient fait un saut d'1m60, Gretel et une petite Elfriede. On va vider Gretel, garder Elfriede, plus une autre jeune fille, une petite Dora, dont on réalisera 2 ans plus tard que c'était un homme. Et comme il y a une justice divine, qui aura la médaille d'or ? Une athlète hongroise, juive.
Incroyable. Est-ce que Gretel Bergmann, un jour, sera reconnue comme la grande sportive qu'elle était ?
En 2009, elle sera reconnue, enfin son saut sera reconnu par la Fédération allemande d'athlétisme.
Autre destin fort et tragique, Clémentine, celui de Bessie Coleman. On la surnommait, je crois, l'ange noir. Pourquoi ?
Bah parce que ça a été la première femme afro-américaine pilote. Et à l'époque, elle est aux États-Unis. Ses parents ramassent du coton au Texas. Enfin, elle est manucure, blanchisseuse. Elle n'a pas un sou. Elle rêve de voler. Comment est-ce que vous pouvez voler quand vous êtes une noire américaine dans les années 20 à Chicago, avec le retour des soldats et donc explosion du chômage et succès du Ku Klux Klan ? Et ben son frère, tenez-vous bien, qui a combattu en France, lui dit « Va en France, ma cocotte, parce que là-bas, ils ne sont pas racistes. Il y a Sidney Bechet, il y a Joséphine Baker, il y a des tirailleurs sénégalais, il y a Eugène Bullard, le premier pilote noir américain à avoir été avec son avion sur les champs de bataille français.
Donc elle débarque en France,
dans la baie de Somme, au Crotoy, la petite Bessie Coleman, après avoir trouvé un homme d'affaires américain qui a financé son voyage et a pris quelques bribes de français avec Berlitz. Et elle aura un des premiers brevets de pilote de l'histoire de l'aviation.
Est-ce qu'elle va revenir donc aux États-Unis, est-ce qu'elle va pouvoir voler dans son pays?
Elle va pouvoir voler, elle va se spécialiser dans la voltige, et la spécificité de cette femme et de bien d'autres dans ce livre et dans notre recherche de femmes exceptionnelles qui ont été des pionnières du sport, c'est qu'elle va mettre sa notoriété au service de la cause féminine et de la cause des Noirs aux États-Unis. Elle va, grâce à elle, elle va arrêter la ségrégation dans les tribunes pour les spectacles aériens qui sont très en vogue à l'époque, et elle met de l'argent de côté pour essayer de créer une école de pilotage pour les Afro-Américains.
Tout ça avant 34 ans, parce que Bessie Coleman va mourir à 34 ans, de quelle manière ?
Hélas, oui, hélas. Elle est mal sanglée dans son avion, elle a un outil qui se prend dans le manche à balai, et son avion se retourne et elle fait une chute mortelle. Il y aura plus de 10 000 personnes qui viendront assister à ses obsèques. Mais vous savez, Bessie Coleman, c'est l'après-guerre, mais ça n'est qu'en 39 que les Afro-Américains hommes ont été autorisés à devenir pilotes de chasse, et les femmes en 1980. Donc on a l'impression que toutes ces conquêtes, elles sont acquises, mais ça n'est pas vrai. Il reste des bastions à conquérir.
Il faut toujours rappeler d'où on vient. Merci beaucoup. Et votre livre, Clémentine et Lorraine Kaltenbach, Les championnes, elles ont conquis l'or, l'argent et le bronze. Tout ça, c'est chez Art aux Poches. À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.